Bonjour à tous. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année 2020, donc pour les 3 semaines qui nous restent jusqu'aux vacances. Et ce chapitre, que nous initions aujourd'hui, sera donc consacré au milieu curviligne, c'est-à-dire à un nouveau modèle géométrique pour un certain nombre de structures que l'on peut rencontrer dans le domaine du génie civil ou du génie mécanique. Donc jusqu'à présent, pour ce qui concerne la géométrie des systèmes, eh bien, on l'a appréhendée de la manière la plus naturelle qui soit, c'est-à-dire qu'on a décrit le système dans sa réalité tridimensionnelle. Bien sûr, il y a des restrictions au modèle de mécanique des milieux continus, si on s'aventure à des échelles d'espace qui sont inférieures à disons quelques centaines de nanomètres, on peut commencer à s'interroger sur la pertinence du modèle continu, mais il n'y a aucune réserve sur la pertinence d'un modèle géométrique tridimensionnel, bien sûr. Il se trouve cependant que pour un certain nombre de structures qui exhibent une dimension géométrique qui est prépondérante devant les deux autres, eh bien, on peut avoir envie de simplifier la description géométrique et de passer d'un modèle tridimensionnel, celui qui s'impose, j'allais dire, de façon naturelle, à un modèle unidimensionnel. Je pense bien sûr, pour commencer, à tous les ponts modernes, hein, vous en avez vu suffisamment pour voir de quoi je veux parler lorsque je considère un grand ouvrage comme par exemple le pont de Normandie ou le viaduc de Millau. Je vois apparaître des éléments de la structure pour lesquels une modélisation unidimensionnelle paraît tout à fait pertinente. Alors c'est justement le point que l'on va discuter aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible de construire un modèle de mécanique sur la base d'une description géométrique unidimensionnel. Et on va voir qu'il y a un certain nombre de conditions que cela ne va pas de soi. Donc, c'est un travail qu'on va faire en 2 étapes. Aujourd'hui, nous allons construire un modèle pour les efforts extérieurs et pour les efforts intérieurs dans le cadre d'une description géométrique unidimensionnelle. Et puis, nous verrons mercredi prochain comment on peut maintenant se donner une description de la transformation géométrique qui sera elle aussi de nature unidimensionnelle et connecter la transformation géométrique aux efforts dans le cadre d'un modèle élastique. Voilà donc en gros ce qui va nous occuper jusqu'à la fin de l'année. Comme on a décidé cette année de se donner pas mal de temps sur ce chapitre, qui est culturellement et pratiquement extrêmement important, on aura aussi l'occasion d'établir les connexions entre ce chapitre et d'autres chapitres, d'autres questions que nous avons déjà entrevues ou d'autres méthodes. En particulier, on s'efforcera de vous proposer des illustrations qui sortiront du domaine de l'élasticité. Par exemple, on pourra faire du calcul à la rupture sur des ouvrages modélisés de façon unidimensionnelle. On pourra aussi mettre en œuvre la méthode des éléments finis dans ce contexte. D'ailleurs, il y a déjà à ce sujet un exercice qui est disponible sur EducNet à la rubrique que vous connaissez bien des exercices de première application. Voilà. Donc, j'en dis pas plus pour ce qui concerne cette introduction et je rentre donc dans le cœur du débat d'aujourd'hui, qui est la construction des efforts extérieurs, des efforts intérieurs, la relation entre les efforts extérieurs et les efforts intérieurs dans le cadre de l'équilibre, puisqu'on va se contenter de travailler sur des sollicitations, sur des conditions d'équilibre, même si certains d'entre vous, je pense notamment à ceux qui travailleront avec Gwendal Cumunel, auront besoin de regarder des situations dynamiques. Ça ne pose pas de problème particulier. Voilà. Donc, le point de départ, bien sûr, c'est une structure tridimensionnelle, mais qui a une spécificité, c'est qu'elle a une direction géométrique prépondérante devant les deux autres, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va commencer par choisir, d'une manière totalement arbitraire, pour cette structure, un arc de l'espace, d'accord? Qu'on va appeler la ligne directrice. À partir de cet arc, on va pouvoir définir des concepts comme par exemple le concept de section droite. Et ce sera sur cet arc qu'on va développer toute notre construction, aussi bien des efforts que de la transformation géométrique. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Donc typiquement, Donc mon affaire est un tube, d'accord? D'une manière totalement arbitraire, je vais choisir dans ce tube ou à l'extérieur de ce tube même, rien ne m'impose quoi que ce soit, je vais choisir un arc que je vais orienter, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'un arc? Un arc, c'est une application d'un certain intervalle grand I de grand R, d'accord, dans R3, qui a un certain paramètre associé à une position P de alpha. Donc dans la pratique, ce qu'on va demander, c'est que cet arc soit continu, c'est-à-dire que la fonction à laquelle je fais référence ici doit être continue par rapport au paramètre alpha, et puis je vais lui demander également d'être au moins dérivable par morceau. D'accord ? Donc je me suis donné un arc de l'espace, d'accord, qui va rendre compte de la position dans l'espace, mais de façon unidimensionnelle de ma structure. Si cette affaire-là est un arc différentiable, je peux considérer la dérivée de P par rapport à alpha, et la dérivée de P par rapport à alpha va me donner la direction de la tangente à mon arc, et j'appellerai section droite, eh bien l'intersection du plan qui est perpendiculaire à la tangente avec l'objet tridimensionnel au point considéré. Donc là, j'ai défini le concept de section droite. Pour pouvoir définir le concept de section droite, je répète rapidement, j'ai besoin de me donner un arc différenciable de l'espace, de pouvoir orienter localement la tangente à cet arc. À ce moment-là, je considère le plan qui est perpendiculaire à cette tangente et je regarde son intersection avec l'objet tridimensionnel réel. Ça me donne la section droite. Voilà. Donc je sais que vous faites plus beaucoup de géométrie tridimensionnelle, de géométrie différentielle, mais ça vous le connaissez, hein, je pense, le concept de tangente à un arc, et vous savez que quel que soit le paramétrage, si je dérive mon arc par rapport au paramètre, j'obtiens un vecteur qui dirige la tangente. Évidemment, il n'est pas forcément unitaire, il ne l'est que si je travaille avec l'abscisse curviligne. D'accord ? Voilà, donc ceci est fait, je me suis donné un modèle curviligne, de ma structure tridimensionnelle. Ça veut dire, en fait, que la section droite que je viens de définir a disparu. Elle a dégénéré en un point. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il faut faire des choix dans la vie, vous le savez, d'accord? Nous, le choix qu'on fait, c'est de se donner un modèle unidimensionnel. Ça va imposer une règle du jeu. C'est que le seul paramètre géométrique dont je dispose maintenant va être un scalaire. Okay, en particulier, je ne pourrai plus me promener dans la section droite, c'est-à-dire je ne pourrai plus définir un champ pour une grandeur physique quelconque qui pourrait m'intéresser. Je ne pourrai plus définir un champ qui se promène dans la section droite. La seule chose que je pourrais donner, c'est une information relative à ce champ au point de la ligne directrice. Et donc je pressens que cette information sera une information moyenne. Okay ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est par exemple si je m'intéressais à un problème de thermique. Imaginons que je m'intéresse à un problème de thermique sur ma structure tridimensionnelle. Et qu'il se trouve que pour des raisons que je développe pas, la température varie significativement à l'échelle d'une section droite. Là, à l'échelle d'un truc comme ça, ma température varie beaucoup. Eh ben, c'est mort. Même si ma géométrie m'invite à utiliser un modèle unidimensionnel, d'accord? Eh bien, physiquement, je ne pourrais pas l'utiliser parce que la grandeur qui m'intéresse varie à l'échelle de la section. Et je ne peux pas décrire les variations locales de ma grandeur à l'échelle de la section parce que la section a disparu, elle est devenue un point. D'accord? Enfin, c'est pas qu'elle est devenue un point, elle existe toujours, mais je ne suis plus capable de l'explorer. Dans mon modèle, elle a dégénéré. Ok? Voilà. Alors j'ai toujours bien sûr le concept de particule élémentaire. Qu'est-ce que ça va être une particule élémentaire ? Eh ben quand on était dans R3, on faisait varier les trois coordonnées d'espace hein, de manière infinitésimale et ça nous délimitait un petit parallépipède, hein, dx, dy, dz ou alors un dr, dθ, dφ, tout ce que vous voulez. D'accord ? Ici, je fais varier ds et donc j'obtiens un segment élémentaire. Ça va être ça ma particule élémentaire. Et dans la vraie vie, bien sûr, ça va être la matière qui est contenue entre deux sections droites infiniment voisines. Donc c'est une tranche, si vous voulez, de ma structure réelle. OK ? Donc, on fait toujours l'aller-retour entre le monde réel et sa modélisation. Et bien sûr, c'est quelque chose qui va devoir être repris, notamment lorsqu'on va parler du comportement. Si je fais le bilan déjà de ce que je viens de raconter, ben, je vois que, comme je vous l'ai dit, j'ai fait disparaître la section de ma modélisation. Et ben ça, c'est quelque chose qui, tout de suite, peut poser problème. Parce que si je prends, si vous avez devant vous, là, pas loin, là, à l'endroit où vous êtes en train de m'écouter, vous avez une règle, mettons, genre un triple décimètre, OK ? Ben, si vous le fléchissez quand il est à plat, ben, ça va tout seul. Si vous le fléchissez quand vous le mettez dans le plan vertical, ben, ça va plus, vous n'arrivez plus à le fléchir. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le même objet. C'est le même objet, mais vous avez fait tourner la sollicitation par rapport au plan, par rapport à la section droite, d'accord ? Et ça change tout dans la réponse. Ah ben ça, c'est un petit peu inquiétant. Ça veut dire que la géométrie de la section, son orientation par rapport au chargement, joue un rôle. Or, moi, je viens de la faire disparaître. Donc ça, ça nous pose une véritable question. Et c'est une question à laquelle il faudra répondre. Donc, puisque j'ai fait disparaître la section de ma modélisation, c'est-à-dire sa géométrie, puisque ma section, encore une fois, je la fais dégénérer en un point, eh bien, il faudra, puisque je n'en rends plus compte dans le cadre des données géométriques, qu'elle réapparaisse ailleurs. Et on verra que ce sera au plan du comportement. Donc, soyez vigilants sur le fait que ce n'est pas parce qu'une géométrie vous invite à un modèle unidimensionnel qu'il va être jouable, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, quand vous passez du 3D au 1D, vous perdez de l'information, typiquement la géométrie de la section droite, et cette information, bah, elle peut être capitale. Je viens de donner un petit exemple tout bête qui le montre, d'accord ? Et donc, il faudra quelque part être capable de la restituer, et ce ne sera pas dans le cadre des données géométriques. Voilà. Alors, il y a tout de suite une autre question qu'on peut se poser. C'est que, ben, en particulier, quand je vais appliquer des efforts, mettons, par exemple, à une extrémité d'un ouvrage. Pour le moment, ici, j'ai encore un ouvrage, un objet qui est dessiné avec sa matérialité tridimensionnelle. Bon, même si je fais un dessin en plan. Sur le dessin de gauche, vous voyez apparaître deux forces opposées qui définissent donc un couple, d'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train d'appliquer à la section extrémité, eh bien, un système dont le torseur a une résultante nulle, et donc c'est bien un couple, et l'intensité de ce couple, c'est évidemment 2F fois L, d'accord ? Ou F fois 2L, c'est-à-dire la distance entre les glisseurs qui représentent mes deux forces ponctuelles. OK ? Je peux représenter je peux exercer sur l'extrémité de ma structure un chargement qui va correspondre exactement au même torseur, d'accord ? À partir d'une distribution continue de traction ou de compression sur la face extrémité. Voici en rouge exactement ce dont je veux parler. Je vais exercer une distribution de pression qui varie linéairement avec Y, qui s'annule en Y égale à 0. Évidemment, vous voyez sur mon dessin qu'elle a une résultante nulle, donc c'est bien un couple. Et je peux m'arranger pour fixer la valeur du paramètre P0, d'accord, de façon à ce que ben, la distribution rouge ait exactement le même couple que ben, mes deux forces bleues. Okay, donc si vous calculez le moment par rapport au point Y égale à 0 de votre distribution de pression, ben le voilà, d'accord, c'est cette intégrale. Et si je me suis pas trompé, ben il suffit de choisir P0 de la façon qui est indiquée ici en fonction de F et L pour réaliser ce que j'ai envie. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là ? Je suis en train de raconter que, ben voilà deux actions extérieures qui sont radicalement différentes du point de vue tridimensionnel, deux forces ponctuelles dans un cas, une distribution de pression dans un autre. Ça, dans le cadre d'une vision tridimensionnelle, ça n'est pas du tout la même chose. Okay ? Mais je suis capable de montrer, je viens de les choisir de façon à ce qu'elles correspondent au même torseur. D'accord ? Or, je pressens que la seule chose dont je vais être capable de parler sur un système d'action, d'accord ? Eh ben, c'est précisément du torseur de ce système d'action, parce que lui, il ne nécessite pas d'explorer géométriquement, d'accord, la manière dont est appliquée cette action à la surface, puisque ma surface a disparu, la seule manière dont je vais pouvoir parler d'un système d'action extérieur ou intérieur, ce sera précisément par son torseur. Du point de vue tridimensionnel, je viens de montrer que je peux avoir des torseurs, un même torseur pour des actions extrêmement différentes. Question posée, qu'en est-il de la réponse du système mécanique à deux systèmes d'action décrits par le même torseur, d'accord, mais différents dans leur description géométrique tridimensionnelle? Eh bien, si la réponse est ces systèmes induisent des réponses différentes, eh bien, on peut arrêter. Notre modélisation unidimensionnelle n'a aucune chance d'être viable. D'accord? Vous comprenez bien le point que je suis en train de faire? Alors, bien sûr, je peux imaginer plein d'autres déclinaisons de cette affaire-là. Par exemple, voici un troisième système d'action. D'accord? Ici, j'ai à nouveau deux forces qui sont séparées de 2L. Ici, deux forces qui sont séparées de L. Et si je me suis pas trompé, avec 5/8 et 3/4, d'accord? Vous allez retrouver exactement le même torseur. Donc, voilà des exemples. On pourrait bien sûr les multiplier de systèmes d'action qui sont différents au plan de leur description géométrique tridimensionnelle et qui correspondent au même torseur. Je répète que si ces systèmes induisent des réponses mécaniques différentes, alors notre modélisation unidimensionnelle n'a aucune chance d'être viable. D'accord ? Alors je me suis amusé à faire un petit calcul élément fini avec le numéro 1 là en bleu et le numéro 2 en rouge et voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est que vous voyez pas la différence entre les réponses. Ou si vous zoomez un petit peu par ici, vous allez voir qu'il y a du bleu et qu'il y a du rouge. Il y a deux déformées différentes. Et vous n'êtes capable d'apprécier en fait la différence entre ces deux déformées, dans le cadre du maillage que j'ai considéré, bien sûr, ici, que d'une manière extrêmement ténue. D'accord, vous voyez que les deux déformés ne sont pas tout à fait identiques au voisinage de la section extrémité, mais il faut vraiment, c'est dans l'épaisseur du trait. D'accord. Alors on y voit un petit peu plus clair lorsqu'on analyse les énergies potentielles des deux réponses et on constate, si je ne me suis pas trompé dans le calcul, qu'il doit y avoir une différence de l'ordre de 3%. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que deux sollicitations qui étaient manifestement extrêmement différentes du point de vue de leur mode d'application tridimensionnel, mais correspondant au même torseur, induisent quasiment la même réponse mécanique. Alors bien sûr, le calcul que je viens d'effectuer est un calcul élastique linéaire et on pourrait montrer que pour d'autres comportements, les choses se passent d'une manière beaucoup moins agréable, d'accord ? Mais on a la chance, de travailler dans le domaine de l'élasticité linéaire. Tout ça, vous avez vu le titre de mon transparent. On va maintenant un petit peu le théoriser en énonçant ce qu'on appelle le principe de Saint-Venant, d'accord ? Qui, précisément, a vocation à exprimer le fait que deux chargements correspondant au même torseur induisent des réponses similaires. Donc voilà une toute petite généralisation des situations que je viens de vous présenter. Dans le cas général, à nouveau en considérant par exemple la section extrémité d'une poutre, d'accord, eh bien je ne vais pas avoir forcément un couple, d'accord. Voici ici une situation où j'applique des efforts tangentiels, donc en résultante je vais avoir une force verticale. J'ai à nouveau les forces rouges ici, mais cette fois-ci elles n'ont plus une résultante nulle, donc j'aurai une composante axiale, d'accord, de mes forces rouges, de la résultante de mes forces rouges, et bien sûr aussi bien les forces bleues que les forces rouges sont de nature à induire vers la gauche, là, de mon système des moments. Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir calculer le torseur correspondant à ces deux distributions d'action bleue et rouge, et je vais trouver, des forces qui auront une force qui aura une composante horizontale, enfin axiale, et une composante verticale, et puis j'aurai bien sûr un moment qui, dans le cas de mon dessin, serait porté par l'axe perpendiculaire au plan de la figure. Donc voilà une généralisation à peu de frais de ce que je viens de raconter. Ce que nous allons maintenant affirmer, c'est que la seule chose dont j'ai besoin pour calculer la réponse de mon système, d'accord, ce n'est pas de la manière dont l'action a été appliquée à la section extrémité, mais simplement du torseur qui est ici schématisé par les deux composantes de ma force et la composante du moment. c'est-à-dire les éléments de réduction de ce torseur au niveau du point B qui est la section extrémité. D'accord? Alors le principe, eh bien on va l'énoncer, d'accord? Le principe qu'on appelle le principe de Saint-Venant me dit que si j'appelle delta une longueur caractéristique de la région sur laquelle est appliqué un système d'action, et si mon système a une taille qui est grande par rapport à delta, alors la réponse ne dépendra pas de la manière dont le système est appliqué, pourvu que le torseur soit un invariant. Une autre façon de dire les choses, telle que c'est écrit ici, c'est qu'un système d'action localisé, localisé ça veut dire appliqué dans une région de taille caractéristique delta, eh bien, dès que je vais m'éloigner de cette région, d'accord, c'est-à-dire lorsque je me place à une abscisse qui est suffisamment éloignée de delta, d'accord, eh bien, le système d'action n'interviendra que par son torseur. Et j'ai précisé ici que cette conclusion nécessite, au moins c'est comme ça que Saint-Venant l'a énoncé, l'hypothèse de comportement élastique linéaire. Voilà. Ça, il n'y a pas d'équation, d'accord? J'ai pas écrit d'équation, mais c'est un point tout à fait fondamental parce que si je n'avais pas ça, eh bien on pourrait arrêter de travailler, d'accord? Voilà. Alors maintenant que j'ai en quelque sorte l'autorisation de décrire les efforts extérieurs par leur torseur, ben je vais pas m'en priver et je vais faire tout un inventaire rapidement là du type de sollicitations extérieures qu'on est susceptible de rencontrer sur un système qui est décrit par un ou plusieurs arcs. Et puis pour simplifier le discours ici, je me limite à un arc unique. Donc voici un arc qui a pour extrémité le point A et le point B et qui est soumis à toute une panoplie d'actions différentes. Alors on va commencer par les extrémités, d'accord? Et bien aux extrémités, on va se donner le torseur des actions extérieures au point B, d'accord, qui sera caractérisé par sa résultante, R de B, et à un moment, H de B. D'accord? Évidemment, ce système d'action, je suis capable, avec les règles que vous connaissez parfaitement, de calculer son moment en un point quelconque de la structure, ou même dans l'espace, bien sûr. D'accord? Pas de difficulté. J'ai la même chose au point A, donc ce que j'appellerai le torseur d'éléments de réduction R de A, H A au point A, ce sera le torseur des actions que le monde extérieur exerce sur l'arc AB au niveau du point A. Et encore une fois, je suppose que c'est seulement de ce torseur dont j'ai besoin pour savoir l'effet des actions du monde extérieur s'exerçant au niveau du point A sur la réponse de ma structure. Alors, il n'y a pas que des actions aux extrémités, d'accord? Je peux avoir envie d'appliquer des actions qui vont être décrites par des densités, d'accord? Par exemple, je peux avoir envie d'appliquer des densités de force ou des densités de moment. Donc, j'aurai en fait un torseur qui sera caractérisé non plus par des éléments de réduction du type force et moment, mais densité de force, densité de moment, hein, c'est ce que j'ai noté ici, petit f de s, petit m de s, vous voyez, j'imagine de quoi je veux parler. Par exemple, si j'ai envie de prendre en compte les forces de pesanteur, il faudra en général que je me donne une densité de force linéique qui va représenter bien l'effet de la gravité sur ma structure. D'accord, c'est l'exemple que l'on prendra le plus fréquemment. Et puis, je peux avoir des actions qui sont concentrées entre les extrémités. Par exemple, si AB c'est le tablier d'un pont, d'accord, et que ce pont repose en un certain point MI sur une pile, cette pile va exercer une force sur le tablier et peut-être aussi un moment si elle est mal réalisée, d'accord. Donc, je vais avoir besoin de prendre en compte des actions ponctuelles en certains points de ma structure, d'accord, pour rendre compte de l'interaction de ma structure avec le monde extérieur, pas seulement aux extrémités. Donc voilà l'inventaire très simple qu'on peut faire. Je ne vais pas m'enliser là-dessus parce que je pense que c'est relativement facile à comprendre. Aux extrémités, des forces et des moments, retenez surtout un torseur au point A, un torseur au point B. De la même manière, des actions réparties qui sont décrites cette fois-ci par des densités linéiques de force, densités linéiques de moment, et puis des actions concentrées en certains points émis discrets, d'accord, de l'arc AB. Voilà pour ce qui est de la modélisation des efforts extérieurs. Maintenant, ce que je voudrais savoir, et là on suit un petit peu la même trajectoire que celle qu'on a utilisée dans le cadre du modèle tridimensionnel, c'est quelle est la connexion entre ces efforts extérieurs et les efforts intérieurs qu'ils induisent dans la structure. D'accord ? Ah ben bien sûr, il faut commencer par définir ces efforts intérieurs, et toujours avec la même règle du jeu, c'est-à-dire ce sont des quantités qui ne peuvent pas faire intervenir la section droite. Alors, on va prendre ce problème. Je me place au point P de ma section droite, de ma structure, et j'ai redonné pour un tout petit instant une matérialité tridimensionnelle à ma structure. Elle est définie bien sûr par la ligne directrice AB dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui me permet de définir la section droite au niveau du point P. Donc P est un point de la ligne directrice. En ce point, je trace la tangente, je trace le plan qui est perpendiculaire à cette tangente passant par P, et j'obtiens ma section droite. D'accord ? Par ce procédé, j'ai en fait mentalement scindé ma structure en deux régions. Si je me donne une orientation de ma ligne directrice de A vers B, ben je vais avoir la région aval par rapport au point P, ce sera la région PB, d'accord ? Et puis je vais avoir la région amont, ce sera la région AP. Donc ce que je viens de dire est très important, c'est que pour pouvoir définir les efforts intérieurs dans ma structure, je commence par orienter mon arc. On va y revenir à plusieurs reprises. Donc j'ai orienté mon arc. Okay. Et la question que je vais me poser, c'est comme ça que je vais définir les efforts intérieurs au niveau de la section passant par P, c'est quelle est l'action de la partie aval PB sur la partie amont AP au niveau de la section passant par P. Et c'est ça que je vais appeler les efforts intérieurs au point P. Donc je répète, j'ai orienté ma section, ma ligne directrice de A vers B. Ceci étant, je suis capable de parler de l'aval du point P et de l'amont du point P, et j'appelle effort intérieur au niveau de la section passant par P l'action exercée par la partie aval sur la partie amont au niveau de cette section. D'accord ? Donc on va faire un tout petit dessin, ça va donner un machin comme ça. Voilà, j'ai effacé la partie aval, c'est elle qui agit sur mon nouveau sous-système, d'accord ? Mon nouveau sous-système, c'est l'amont par rapport au point P, et je voudrais savoir ce que le monde extérieur exerce au niveau de la section qui est maintenant en jaune ici, passant par P, d'accord, sur cette section. Ben, le monde extérieur, c'est la partie aval de la structure. Eh bien, quelqu'un dit, bah, écoutez, c'est bon, on a passé déjà presque septembre, octobre, novembre, 3 mois, ça y est, à parler des contraintes de Cauchy, donc on sait très bien que au niveau d'une facette élémentaire de normale, que j'appelle ici NP, d'accord, eh bien, il va y avoir une force surfacique T de M, d'accord, et donc une force élémentaire TMDS, d'accord, que je pourrais calculer très facilement à l'aide du tenseur des contraintes de Cauchy au point M. Et cette réponse est parfaitement correcte, d'accord ? Au passage, qu'est-ce que c'est que le vecteur NP ? C'est la normale unitaire extérieure à ma facette verte, là, qui est dans le plan jaune. Et ben, cette normale unitaire extérieure, c'est bien sûr le vecteur unitaire tangent à la ligne directrice orientée de A vers B, construit au point P. On est bien d'accord, hein, ici, cette normale NP qui intervient dans le calcul de la force surfacique qui s'exerce sur une petite facette de ma section jaune, d'accord ? Eh bien, cette normale unitaire extérieure, ça n'est rien d'autre, puisque la section droite est un plan, ça n'est rien d'autre que le vecteur unitaire tangent à la ligne AB calculé au niveau du point P. On a vu comment il suffit de dériver P par rapport à, pas tout à fait alpha, mais par rapport à l'abscisse curviligne, d'accord ? Voilà. Ouais, sauf que ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi ? Bah parce que précisément, je suis en train de parler d'un champ à défini sur la section droite et on a dit que ça sortait de la règle du jeu. Je ne suis pas capable de me promener sur la section droite, plus exactement, je n'ai plus le droit de le faire dans le cadre de mon modèle unidimensionnel. Alors bien sûr que cette action existe. Bien sûr que si je reviens à la tridimensionnalité de ma structure, je pourrais déterminer cet objet dans le cadre, par exemple, d'un calcul en éléments finis. Bien sûr qu'on pourra faire ça. Et c'est même extrêmement instructif. Et il y a plus. C'est que ce vecteur T, il varie en général beaucoup à l'échelle de la section droite. On verra ça, par exemple, dans le cas de la flexion, lundi prochain, quand on traitera le problème de la flexion d'une poutre en 3D, on regardera avec attention les variations des contraintes dans la section droite et on verra que ces contraintes varient beaucoup. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai dit « Ah ben, si ma température elle varie beaucoup à l'échelle de la section droite, c'est mort ». Je pourrais pas utiliser un modèle unidimensionnel pour un problème de thermique. Bah là, on va avoir des contraintes qui varient beaucoup à l'échelle de la section droite et ça nous empêchera pas de vivre. Parce qu'en fait, ce qui va être pertinent, d'accord, d'après Saint-Venant, toujours d'après Saint-Venant, ce qui va être pertinent, c'est le torseur, en fait, de ces distributions. Donc, ce qui va être intéressant pour comprendre les efforts intérieurs qui s'exercent au niveau du point P dans ma structure, c'est le torseur des actions dont la densité surfacique est T de S. Et ce torseur, il est défini par un vecteur résultante, d'accord? Là, je suis en train de calculer la résultante des forces surfaciques au niveau de la section sigma de SP, c'est-à-dire la section droite passant par le point P, d'accord? Et puis, bien sûr, là, je calcule le moment en P de cette distribution d'action. Hein, TMDS, c'est une force ponctuelle qui est appliquée au point M. Pour calculer son moment en P, je fais le produit vectoriel PM vectoriel TMDS. Ça, c'est un moment élémentaire. Il me reste à intégrer et je trouve le moment résultant. De sorte que le couple des deux vecteurs X et gamma représente les éléments de réduction du torseur des actions exercées par l'aval de la structure sur l'amont de la structure au niveau de la section droite passant par P. Et c'est ça que je vais appeler la description des efforts intérieurs au niveau du point P. D'accord? C'est un torseur. Et donc, je respecte la règle du jeu. La règle du jeu qui était nous n'avons pas le droit d'utiliser des champs qui se promènent dans les sections droites. On ne le fait pas. La seule chose qu'on se donne, c'est une information moyenne, comme je l'avais annoncé, d'accord? Et cette information moyenne, c'est le torseur. Donc, de même que pour les efforts extérieurs, c'est un torseur qui va représenter les efforts intérieurs. Alors, une remarque qui a beaucoup d'importance, c'est que ces efforts intérieurs ne sont pas intrinsèques, au sens où, si je change le sens, l'orientation de la ligne directrice, je garde la même ligne directrice, d'accord, mais je change l'orientation de la ligne directrice, eh ben, ce qui était l'aval pour le point P est devenu l'amont. Donc, tout de suite, je me dis que le principe de l'action et de la réaction impose que le signe de X et le signe de gamma soient inversés si je change le sens de parcours de ma ligne directrice. D'accord? Et c'est bien ce que me montrent les formules. D'accord? C'est que si je change le sens de parcours, eh bien, cette fois-ci, la normale unitaire extérieure, elle change de signe. D'accord? Donc, si elle change de signe, lui, sigma de M, il change pas, lui, hein. Mais NP change de signe. Donc, T change de signe. Donc, X change de signe. Donc, gamma change de signe. D'accord? Donc, ce qu'on pouvait anticiper avec le principe de l'action et de la réaction, sur la base même de la définition de X et gamma comme torseur des actions exercées par l'aval sur l'amont, d'accord? Ce qu'on pouvait donc anticiper par le principe de l'action et de la réaction, les équations ici, ces deux équations ici, le confirme. Alors, attention, hein, ces équations, nous n'allons pas les utiliser. Nous n'allons pas calculer X à partir d'une intégrale de T, parce que, encore une fois, je ne vais pas me promener sur les sections droites. D'accord? Je vais faire un calcul complètement unidimensionnel. D'accord? Mais ces deux équations connectent mentalement le modèle tridimensionnel et la réalité tridimensionnelle à mon modèle unidimensionnel. Okay? Donc, ce sont des équations, en fait, conceptuelles qui n'ont pas vocation à être opératoires. Elles sont là pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on ait une définition bien établie de X et gamma. Voilà. Retenez cette chose très importante sur le plan pratique, c'est que X et gamma n'ont pas un signe intrinsèque, d'accord, qu'il change de sens. Et donc, face à une structure qui est un petit peu complexe et qui va comporter plusieurs éléments, sur chacun de ces éléments, vous allez devoir choisir un sens de parcours. Et peut-être qu'une autre personne va choisir un autre sens de parcours. Et ça n'est pas une erreur, d'accord. Et vous allez trouver donc des résultats opposés. Et vous aurez, si vous trouvez des résultats opposés, ce sera justement une bonne nouvelle, c'est que vous aurez en fait fait le bon calcul, d'accord. Voilà. Alors maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à la connexion qui existe entre les efforts intérieurs, qui sont maintenant bien mis en place, avec les efforts extérieurs. Comment on va s'y prendre? On avait fait ça, en fait, dans le calcul tridimensionnel. Par exemple, on avait dit, quand on va vouloir traduire l'équilibre, et c'est bien ce que nous cherchons à faire, le champ de contrainte de Cauchy va être connecté aux forces à distance par, l'équation locale que vous connaissez bien maintenant, divergence de sigma plus rho f égale à zéro. Voilà, une connexion entre les efforts extérieurs, d'accord, et la modélisation par le champ des contraintes de Cauchy des efforts intérieurs. Sauf qu'il y avait une mauvaise nouvelle, c'est que cette équation locale, on n'était pas capable de l'intégrer. Et même à la limite, on avait dit, il y a une infinité de solutions, et on sera, même si on était capable d'intégrer cette équation, on ne serait pas capable de choisir, à partir de cette équation, quelle est la solution qui est pertinente, puisqu'il y en a une infinité. Ici, on va voir que les choses sont extrêmement différentes, et le résultat qu'on va faire apparaître ici est à l'origine de l'extraordinaire popularité du modèle unidimensionnel en matière de calcul des structures. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'intéresser... Bon, ici, c'est évidemment un dessin, il y a tout plein de trucs. Hein. Qu'est-ce que j'ai représenté? Jusqu'à maintenant, je m'intéressais à la partie AP, sur laquelle la partie aval exerçait un effort. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie aval, justement, la partie PB. Et je fais l'inventaire de toutes les actions qui s'exercent sur PB. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, bien sûr, les actions à l'extrémité, c'est-à-dire au point B, décrit par le torseur, élément de réduction, R de B, H de B, etc. Les actions concentrées en des points MI qui appartiennent à l'arc PB, d'accord? Des actions réparties, éventuellement. Et puis, bien sûr, je vais avoir cette fois-ci l'action de l'amont sur l'aval au niveau de la même section, passant par P. Et on l'a déjà dit, le principe de l'action et de la réaction me dit que ces actions, ça va être justement moins X et moins gamma. Et c'est cette remarque qui va me permettre de connecter X et gamma aux actions extérieures portées par la partie aval par rapport au point P. Qu'est-ce que je vais faire pour faire apparaître ça? Tout simplement, je vais écrire le postulat de la loi, les deux postulats de la loi fondamentale de la statique, d'accord? C'est-à-dire que je vais écrire l'équilibre de PB sous l'action de toutes les actions que je viens de lister. C'est-à-dire les CI, FI, les H de B, R de B, les F de S, M de S, et bien sûr, moins X et moins gamma. Si je commence par l'action en résultante, je vais donc avoir que la somme des forces qui s'exerce sur PB doit être nulle. La somme des forces qui s'exerce sur PB doit être nulle, ça me donne moins X, plus la somme de tous les FI appliqués à des points MI qui sont à l'aval de P, plus RB, plus éventuellement, s'il y en a, l'intégrale de la densité F de S entre le point P et le point B, tout ça, ça doit valoir 0. Et si je fais passer X dans le membre de gauche, je trouve la valeur de X. Je trouve que X au point P, d'abscisse curviligne S indice P, ça va être la somme de toutes les autres forces que je viens de lister. R de B, la somme pour des indices I tels que SI est plus grand de SP et des forces FI, puis l'intégrale de la densité linéique. En gros, je viens de faire un travail comptable. Je viens de dire, je prends le point, et c'est comme ça que vous allez procéder dans les exercices, je prends mon point P sur mon arc AB, il est orienté, il y a un amont, il y a un aval, je regarde tout ce qui est à l'aval du point P, et je fais la somme des forces. Cette somme, c'est éventuellement une intégrale, bien sûr, mais je fais la somme des forces, qui sont des forces ponctuelles ou des densités linéiques de force. Et j'obtiens la valeur de X. C'est-à-dire que là, j'ai connecté par une équation explicite les efforts la résultante des efforts intérieurs aux efforts extérieurs. À quels efforts extérieurs? À ceux qui sont appliqués à l'aval du point P. c'est eux et eux seuls qui interviennent dans le calcul de x en s de p. Bien sûr, ce que je viens de faire avec le postulat en force, je peux le faire avec le postulat en moment. J'écris que le moment en p de toutes les actions, donc si je crée le moment en p, ben, ça veut dire automatiquement, bien sûr, que le moment de moins x va être nul. Le moment en p de toutes les actions qui s'exercent sur pb est nul, d'accord? Donc je vais avoir tout plein de trucs, à commencer par moins gamma. Je fais passer moins gamma dans le membre de gauche comme je viens de le faire pour la force et je trouve que ben, alors ben, gamma, ça va être le moment h de b. D'accord? Je vais avoir à prendre en compte le moment de la force R de B appliqué au point B calculé par rapport à P. Ben, ça va être ce bazar. De la même manière, je vais avoir le moment CI, puis je vais avoir le moment de la force FI appliqué en MI calculé par rapport à P. Ça va être donc toute cette somme-là. D'accord? Et puis enfin, j'aurai l'intégrale du moment réparti M de S et puis l'intégrale du moment de la densité linéique. Alors donc, si la force... Si je considère la force élémentaire, pardon, la force F de S ds qui est appliquée au point M, son moment en P, ce sera P de M vectoriel F de S ds, et voilà, je fais le calcul de cette intégrale. Ok, voilà, je suis à la tête du moment gamma, donc du deuxième élément en réduction de mon torseur des efforts intérieurs au point P, d'une manière qui est connectée d'une manière explicite aux efforts extérieurs, exactement comme j'ai pu le faire pour grand X. Et ça, c'est quelque chose qui est donc radicalement différent de ce que nous avons fait en modélisation tridimensionnelle. Et ça va avoir des conséquences sur le plan opératoire qui vont être absolument capitales. D'accord ? Je vais y revenir dans un tout petit instant. Il était évidemment impossible de faire la même chose, c'est-à-dire en gros d'intégrer les équations de l'équilibre que nous avions identifiées, div de sigma plus rho f égale à zéro, compte tenu d'informations éventuelles sur le bord, du type sigma contracté avec n égale t, etc. On ne savait pas intégrer ça, on ne savait pas intégrer ce problème différentiel pour exhiber la valeur de sigma. Ben, en quelque sorte, c'est ça que je viens de faire. Alors, justement, on va faire le travail inverse, c'est connaissant cette relation explicite entre x et gamma et les efforts extérieurs, ben, je vais au contraire en déduire les équations de la statique. Mais vous voyez ici que je les mets pas en avant, les équations locales de la statique. Je les mets pas en avant parce qu'en fait, on s'en sert pas dans la pratique. On n'en a pas besoin puisqu'on dispose de ces équations, pour ces équations, d'une forme intégrée que je viens d'expliciter. Alors, de quoi je suis en train de parler là? Ben, je suis en train de dire... Quand x et gamma, moralement, c'est mon sigma, d'accord? Il joue exactement le même rôle. Le torseur grand, qui a pour élément de réduction grand x et gamma au point p, il joue exactement le même rôle dans le modèle unidimensionnel que le tenseur des contraintes de Cauchy au point p dans un calcul tridimensionnel, d'accord? Le tenseur des contraintes de Cauchy, eh ben, il écrit un champ dans l'espace. Ce champ est soumis à une équation locale, I de sigma plus f égale à zéro. Que dire des éléments de réduction grand X et gamma? Quelle est l'équation locale qu'il vérifie? Ben, pour l'obtenir, il suffit de dériver ça par rapport à SP. D'accord? Si je dérive grand X par rapport à S de P, ben, ça c'est une constante, donc elle n'intervient pas. Ben, ça c'est une fonction qui est en fait une fonction en escalier. D'accord? Hein, vous voyez que c'est une fonction en escalier puisque c'est la somme pour les forces ponctuelles qui sont situées, qui sont appliquées de manière discrète à l'aval du point P. Bah donc c'est une fonction en escalier. Vous savez ce que c'est une fonction en escalier. Je vais pas m'enliser là-dedans. D'accord? Et puis la dérivée de l'intégrale, bah il n'y a pas de difficulté. Je dérive en fait par rapport à la borne inférieure de l'intégrale, donc ça va me donner moins f de sp. D'accord? Donc je vais trouver la première équation. D'accord? De l'équilibre, il y en a deux. La première, c'est celle-là. Je l'obtiens en dérivant l'expression de x par rapport à s de p. Et c'est vrai que elle a une tête du genre div de sigma plus rho f égale à zéro. Elle ressemble exactement à ça. Okay? Je ne l'écrirai jamais dans la pratique. C'est pas en écrivant cette équation. Bien sûr qu'on peut le faire, mais c'est pas habile. Okay? Bien sûr qu'on peut faire, on peut tirer parti de cette équation pour calculer les efforts internes, mais c'est pas comme ça qu'on fait. On verra mercredi prochain, par contre, qu'elle nous sera d'une très grande utilité dans sa forme dualisée, et on en aura besoin quand on voudra, par exemple, faire des calculs en éléments finis, de la même manière qu'on avait besoin d'un théorème des travaux virtuels pour faire des éléments finis tridimensionnels. On aura besoin d'un théorème des travaux virtuels pour les poutres, et ce théorème des travaux virtuels, on l'obtiendra en dualisant les équations de l'équilibre. Parce qu'il y en a une deuxième, la deuxième, je l'obtiens en dérivant gamma à nouveau par rapport à S2P. Alors je ne vais pas faire le calcul en détail, simplement le principe du calcul. Quel est le principe du calcul? Ben, gamma il dépend de SP par quoi? Ben, par exemple ici par PB. Qu'est-ce qui se passe quand je dérive PB par rapport à S2P? Ben, c'est la définition qu'on a donnée tout à l'heure, hein. On a dit, ce bazar, si j'ai un paramètre alpha, me donne la direction de la tangente à l'arc. Oui, mais c'est pas un vecteur unitaire, hein. Pour obtenir un vecteur unitaire, d'accord, eh bien, je vais prendre le vecteur unitaire t, orienté dans le sens croissant de l'abscisse curviligne. Ben, c'est tout simplement la dérivée de OP par rapport à l'abscisse curviligne. Donc, quand je vais dériver PM, ou PMI, par exemple, par rapport à ça, cette affaire-là, quand je la dérive par rapport à S, et ben comme P, c'est le premier point du vecteur, évidemment, je vais trouver moins T en S de P. D'accord? Ça, la dérivée de PM par rapport à l'abscisse curviligne va me donner l'opposé du vecteur unitaire tangent à l'arc au point P. Bon, ben ça va intervenir dans le moment de la force RB, mais aussi dans le moment des forces FI, d'accord? Et puis dans le moment des actions réparties, à chaque fois, je dérive le PB, le PMI, le PM, à chaque fois, ça me donne moins T. Donc finalement, si vous, je vais pas faire la démonstration parce que c'est pas passionnant, mais vous voyez que je vais obtenir donc moins T vectoriel R2B, je vais obtenir moins T vectoriel FI, et ici, je vais trouver un moins T vectoriel F de SDS, d'accord, intégré par rapport à l'abscisse curviligne entre SP et SB. Donc, en fait, je vais trouver exactement les trois personnes qui sont ici, RB, FI, F de SDS. Donc, en fait, je vais trouver moins T vectoriel X. Voilà. Quand je vais dériver gamma par rapport à SP, je répète mon petit baratin là, quand je vais dériver gamma par rapport à SP, j'ai un moins T vectoriel RB, il est là, un moins T vectoriel FI, il est là, un moins T vectoriel F2S, il est là. D'accord? Donc je vais trouver moins T vectoriel X. Et puis bien sûr, faut pas oublier cette intégrale si elle est présente. D'accord? Là, ça me donne tout simplement moins M calculé au point d'abscisse curviligne SP. Donc la dérivation de gamma de SP par rapport à SP me donne la deuxième équation de l'équilibre. Et je constate, à la différence de la première, qu'elle est couplée avec la précédente. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de profond, en fait, hein. Je peux pas calculer gamma sans connaître X si je veux travailler avec les équations de la statique. Okay. Et quand on dualisera ces équations, on fera ça la semaine prochaine, eh bien, on dualisera la première et la deuxième, on superposera le résultat, et c'est comme ça qu'on sera capable de produire un théorème des travaux virtuels. Vous pouvez même vous entraîner à y réfléchir, c'est intéressant. C'est intéressant d'essayer de faire un petit travail en autonomie sur cette question. Voilà, j'en dis pas plus. Bien sûr, gardez en tête que c'est pas ça que vous écrirez quand on vous demandera de faire la statique d'un arc. Okay. J'enchaîne sur un petit exemple, ben, pour faire un peu un bilan de ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant. Je ne suis pas trop en retard, ça va. Donc je peux présenter un petit exemple. Alors je prends un crochet que j'encastre, on va bientôt parler un petit peu mieux de ce que c'est qu'un encastrement. D'accord. En gros, ça veut dire que j'empêche le truc de bouger en rotation ou en translation. D'accord. Et puis donc j'ai encastré mon crochet. Et puis je mets une force horizontale ici à l'extrémité, donc aval si j'oriente mon crochet depuis l'encastrement vers l'extrémité où est appliquée la force. D'accord? Et je me dis, tiens, ben, on va faire la statique de ce problème. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire calculer en tout point de la structure le torseur des éléments, enfin les éléments de réduction du torseur des efforts intérieurs. Ok? Ben, ici c'est immédiat parce que j'ai dit, en fait, on n'écrit pas l'équation, on se place en un point de la structure et on fait le bilan de tout ce qu'il y a à l'aval du point considéré. Somme des forces, si on veut calculer X, somme des moments, si on veut calculer gamma. Bon, ben c'est immédiat. Somme des forces, déjà, ben, il n'y en a qu'une, elle est appliquée ici. Ça veut dire en fait que ben, le vecteur X de S2P, eh ben, il prend une valeur uniforme sur la totalité de l'arc. D'accord? Il aura toujours la même valeur. Donc par exemple, si je me mets ici, ben, il vaut FEX, si X c'est la direction horizontale, mais si je me mets en un point du tronçon horizontal, il vaudra toujours FEX, ça n'a pas changé. D'accord ? Voilà. Pour ce qui est du moment. Alors, ce qui est du moment, certains d'entre vous, parfois, sont un petit peu, j'allais dire, embarrassés quand ils doivent calculer les moments. Faut arrêter ça, hein. Faut être habile avec le calcul des moments. Alors, bien sûr, un moment, ben, fondamentalement, c'est un produit vectoriel. Mais on n'est pas toujours obligé d'écrire des produits vectoriels. Donc, dans la pratique, ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, par exemple, la force, donc vous voulez calculer le moment, vous allez considérer le bras de levier de cette force par rapport au point où vous voulez calculer le moment, et ensuite il vous restera à déterminer le signe du moment. Donc je rappelle ce que c'est qu'un bras de levier quand même, hein, c'est que si ici j'ai une force, hein, une force autrefois, une force ponctuelle, autrefois on appelait ça un glisseur, parce qu'en fait la seule chose qui compte, en fait, c'est l'intensité de la force, et l'axe de cette force. Okay, on peut la faire glisser, ça ne change pas le moment. On peut la faire glisser sur la droite, ça ne change pas le moment. Et je prends un point ici. Et moi, je voudrais calculer le moment de cette force F, d'accord, qui est appliquée en un certain point M. Je voudrais le calculer en P. Alors, bien sûr, je peux faire PM vectoriel F, mais c'est pas comme ça que vous allez faire dans la vraie vie. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer le bras de levier. Le bras de levier, c'est tout simplement... La longueur du segment qui joint le point P avec sa projection orthogonale sur le glisseur. D'accord? Donc vous définissez le glisseur, ok? Vous projetez orthogonalement le point P qui vous intéresse et vous avez ici le bras de levier de votre force. Après, ben, vous voyez que par exemple, si l'espace est orienté comme d'habitude dans le sens antihoraire, ben là vous avez un moment qui est positif et vous n'avez pas écrit de produit vectoriel. C'est pas interdit d'écrire de produit vectoriel, mais c'est malhabile. Voilà. Alors typiquement ici, ben si z est la troisième direction de l'espace, telle que x, y, z soit orthonormé direct, ben vous voyez que ben ici, si je me place par exemple en ce point qui a comme ordonnée y, l'ordonnée de l'extrémité étant h, ben le bras de levier de la force F, ça va être h moins y. D'accord. Donc le moment, ben ce sera F facteur de h moins y. Il me reste à me poser la question du signe, mais évidemment c'est un moment négatif par rapport à l'orientation de l'axe Z. Donc ce sera moins F, H moins Z, Z. Et puis le résultat est évidemment le même si je prends un point du tronçon horizontal, sauf que maintenant le bras de levier sera constant, hein, il sera le même pour tous les points de l'axe horizontal, évidemment égal à H. Voilà, donc on a fini, on a fait la statique de notre structure. Et puis là on se dit quand même, il y a quand même un souci là, c'est que c'est surtout en regardant X qu'on est perplexe, parce qu'on se dit, alors, quand on a fait le cours d'élasticité tridimensionnelle, on a dit, c'est vachement important de connaître les efforts intérieurs, parce que les efforts intérieurs sont associés à des déformations. D'accord? Ils sont même associés linéairement sur le problème de l'élasticité linéaire. Là, on se dit, ça va être pareil. Alors, finalement, la connaissance de grand X va être extrêmement importante, parce qu'elle va me dire comment se déforme ma structure. Dans le cadre d'une modélisation unidimensionnelle de la transformation géométrique. Et là, on se dit, le problème, c'est que x, il est constant. Donc, ça veut dire, en gros, qu'il va avoir le même effet sur la transformation géométrique que je me place sur le tronçon vertical ou sur le tronçon horizontal. Et ça, évidemment, vous achetez pas, parce que vous voyez bien que la force F, elle n'a pas du tout le même effet sur le tronçon vertical, qu'elle va avoir tendance à fléchir, comme ceci, d'accord? Et sur le tronçon horizontal, qu'elle va fléchir vers le bas, d'accord? Mais aussi qu'elle va allonger, puisque la force F est collinéaire au tronçon horizontal, alors qu'elle est perpendiculaire au tronçon vertical. On se convaincra, mais je pense qu'on en a tous l'intuition, que la force F n'induit aucun allongement du tronçon vertical, mais qu'elle va induire un allongement du tronçon horizontal. Or, moi, j'ai mon X qui est uniforme sur ma structure. Donc, je vois très mal comment ce gars-là pourrait être un bon candidat pour me donner des informations sur la transformation géométrique locale. Et pourtant, c'est à ça que servent notamment les efforts intérieurs. Donc on est embêté. Donc il faut qu'on travaille plus. Hein. On sent qu'il faut faire quelque chose. Ce qu'on a raté, c'est tout bête, c'est qu'il faut tenir compte de l'orientation des éléments de réduction X et gamma par rapport à ce qu'on appelle souvent la microstructure, c'est-à-dire la section droite. D'accord ? Ce qui va être décisif et ce qui va donner lieu à des objets qui sont contenus dans X et gamma, mais qui, eux, vont être pertinents pour la description du comportement local, d'accord? Ce qui va être décisif, c'est l'orientation de X et gamma par rapport à la section droite. Est-ce que x est dans le plan de la section droite? Est-ce qu'il est perpendiculaire à la section droite? Pareil pour gamma. En fait, dans la généralité, x, il aura une composante selon la normale, une composante dans le plan, et gamma pareil. Et c'est juste ça qu'on va faire maintenant. Ça va aller très vite. Donc, je vais définir l'effort normal et l'effort tranchant. Ce sont des concepts qui sont tout à fait essentiels, qu'il faut bien connaître, d'accord? Et qui seront d'ailleurs au programme du QCM qui est programmé mercredi prochain, si ma mémoire est bonne. D'accord? Ou est-ce que, au passage, oui, ce qu'on fait aujourd'hui en statique est au programme du QCM? Hein, si vous, le programme sera affiché sur EducNet très vite. Donc, je profite pour le dire avant que ça me sorte de la tête. Donc, je prends ma force X, d'accord? Eh ben, je vais appeler effort normal la projection de X sur le vecteur T. D'accord? Alors, pourquoi on appelle normal ce qui est projeté sur la tangente? Parce que c'est normal par rapport à la section droite, d'accord. Donc il y a une composante de la force rouge, là, de la force X, d'accord, qui est portée par la normale à la section droite, qui est justement dirigée par le vecteur T. Eh bien, ce sera nt, et on appellera donc effort normal le scalaire n. Alors, ou alors la force nt, mais en fait dans la pratique, ce qu'on appelle l'effort normal, c'est le scalaire n. Et puis le reste, eh bien, évidemment, est dans le plan de la section droite. C'est donc un vecteur. On va l'appeler l'effort tranchant. D'accord? Celui dont on sent qu'il est lié davantage à du cisaillement, alors que N est lié à un mécanisme de déformation longitudinale. Tout ça sera confirmé mercredi prochain sur le plan cinématique. Donc on va écrire X égale NT plus V. Au passage, il est extrêmement important de noter que le signe de N est intrinsèque. Pourquoi il est intrinsèque? Parce qu'en fait, si je change le sens de la ligne directrice, c'est-à-dire je vais changer le sens de T automatiquement, mais je change aussi le sens de X, puisqu'on a vu que l'inversion du sens de la ligne directrice inversait le signe des éléments de réduction du torseur des efforts intérieurs. Donc, je ne change pas le signe du produit scalaire XT, comme me le dit mon dessin, d'accord? Si N est positif et que NT représente l'effort normal, je vois bien que je suis en train de tirer sur ma structure. Si je tire sur ma structure, ma structure elle va s'allonger cinématiquement, et ça c'est intrinsèque, d'accord? Donc, il était à espérer que le signe de grand N soit effectivement quelque chose d'intrinsèque pour que grand N puisse avoir un espoir d'être connecté à une réalité cinématique comme la déformation longitudinale. Et ce sera bien le cas. Hein, c'est ce qu'on va démontrer très bientôt. Lundi, en l'occurrence. Voilà. Donc, et puis, notre effort tranchant, lui, c'est un vecteur, il n'a pas de signe. Allez, on fait pareil pour le moment gamma. Le moment gamma, il va avoir deux composantes. Une composante qui est portée par l'axe de la section droite. Et ça, c'est un mécanisme de torsion. On est tous d'accord. Hein. La composante de gamma qui est portée par l'axe de la section droite est une composante de torsion. OK? Ne confondez jamais la torsion et la flexion. Nous appellerons au contraire flexion la composante, en l'occurrence donc vectorielle, de gamma, hein, et que je vais noter M, qui est dans le plan de la section droite. Et ça, c'est un moment de flexion. D'accord? C'est une composante de flexion du moment gamma. Ça va? Voilà. Donc, on aura un scalaire pour représenter la torsion, et on aura un vecteur pour représenter la flexion. De la même manière que N, le signe de C est intrinsèque pour les mêmes raisons. J'inverse le sens de parcours de mon arc. Le signe de T est changé, le signe de gamma l'est également, celui de C ne l'est pas. Voilà. Alors je reviens au même exemple et puis ça va beaucoup nous rassurer parce que si je reprends le même exemple, eh bien maintenant sur ce tronçon, quand je vais projeter X, qui est égal à cette force horizontale, sur le tronçon vertical, je vais trouver 0. C'est-à-dire que l'effort normal sur le tronçon vertical est bien nul. D'accord? Donc ça veut dire en fait que grand X n'est que se réduit à de l'effort tranchant sur le tronçon vertical. Et c'est tout le contraire pour le tronçon horizontal. Pour le tronçon horizontal, il n'y a pas d'effort tranchant parce que grand X est toujours égal à FEX et précisément ici T, c'est FEI, c'est égal à EX et donc grand X est égal simplement à son effort, à la composante normale. Donc on aura un effort normal nul ici, un effort normal égal à F sur le tronçon horizontal. Pour ce qui est de la torsion, vous constatez que dans ce cas, il n'y en a pas, que le moment gamma a seulement une composante de flexion. Si je m'amusais à orienter la force F selon Z, bah ça, ce serait changé. On aurait de la flexion dans le tronçon vertical, mais vous pourriez montrer sans peine que vous auriez de la torsion sur le tronçon horizontal. C'est un exercice que je vous suggère. Hein, vous faites tourner votre force F, maintenant vous mettez F collinaire à EX et vous reprenez exactement le même calcul. Vous allez voir que vous fléchissez le tronçon vertical, il n'y aura pas de torsion dans le tronçon vertical. Par contre, vous allez fléchir et tordre le tronçon horizontal. Voilà, j'en ai fini avec cet exemple. Vous trouverez souvent dans la pratique, les ingénieurs qui font du calcul de structure aiment bien représenter directement les résultats de leur calcul sur le profil de la structure. Donc, on a comme ça un profil en long des résultats en termes d'effort intérieur. Bah, par exemple, ici, voilà une représentation qu'on pourrait donner pour le moment de flexion. D'accord? J'ai pris ici le scalaire qui correspond à la projection seule non nulle du moment de flexion sur Z. D'accord? Et ben, c'est un machin qui varie linéairement sur le tronçon vertical. Alors, ça donne un trait comme ça. D'accord? On donne souvent les valeurs extrêmes. Ici, évidemment, il n'y a pas besoin de la donner, c'est 0. Et puis là, la valeur extrême, c'est moins FH. C'est un moment de flexion, donc rétrograde par rapport à EZ. Et puis, on a un moment de flexion qui est uniforme et négatif, porté par EZ, toujours, sur le tronçon horizontal, à cause de l'application de la force rouge. Okay, vous ferez souvent ce genre de dessin. Les collègues vous y entraîneront en petite classe. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à la problématique des actions de contact, c'est-à-dire des actions qu'exerce la structure au niveau de ces deux extrémités qu'on va pouvoir appeler légitimement donc l'extrémité amont, le point A, et l'extrémité aval, le point B. Et j'aimerais savoir comment s'écrivent les conditions aux limites, c'est-à-dire les conditions, s'il y en a, sur les efforts au niveau des extrémités. On va commencer par l'extrémité aval, parce que c'est particulièrement simple. Si je considère l'extrémité aval, je m'intéresse à la manière dont je peux connecter les efforts intérieurs au point B et les efforts extérieurs au point B. En gros, quel est l'équivalent de sigma contracté avec N égale T pour une facette élémentaire qui est sur la frontière de mon système tridimensionnel? Eh bien, c'est de dire comment je connecte les efforts intérieurs en B. Donc, je vais me placer immédiatement en amont du point B, d'accord? Ça va être le bord de ma structure. Et je veux savoir comment XB et RB sont reliés à, typiquement, par exemple, RB et HB. La réponse est extrêmement simple. Si j'ai à nouveau en tête la manière dont on calcule X et gamma, on a dit, on prend un point, on regarde tout ce qu'il y a à l'aval et on fait la somme. Là, c'est très simple. À l'aval d'un point qui est immédiatement à l'amont du point B, il n'y a que le point B, et donc il n'y aura comme action que RB et HB. Donc je peux tout de suite affirmer, c'est immédiat, vous voyez à quel point le 1D simplifie beaucoup les choses, que X en B c'est RB, que gamma en B c'est HB, et puis par coquetterie j'ai mis ici un B moins pour dire que je me place immédiatement à l'amont de l'extrémité aval. Voilà. Alors, comment est-ce que je trouve maintenant la condition limite amont? Je pourrais être très clever et dire, voilà comment je vais faire. En fait, je vais inverser le sens de parcours, d'accord? Donc, x devient moins x, gamma devient moins gamma, ok? Et puis, en même temps, j'inverse l'amont et l'aval. Donc, maintenant, mon extrémité amont A, d'accord? Mon extrémité amont A est devenue l'extrémité aval. Donc ça veut automatiquement dire que moins x de A, ça doit être égal à RA, que moins gamma de A, ça doit être égal à HA. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc par un petit tour de passe-passe, je peux trouver que la condition limite au point A, va ressembler à celle-là, sauf qu'il faut mettre des moins. Sauf que quand je raconte ça, je pense que j'ai fait un tour de passe-passe qui est parfaitement rigoureux, mais j'ai pas fait tellement ressortir la physique de ce qui se passe. Il y a une physique, elle est cachée dedans, mais justement je ne l'ai pas explicité. D'accord? Vous avez compris mon petit exercice? Vous pourrez le refaire mentalement. Je change le sens de parcours, très habilement, de façon à ce que A, qui était l'extrémité amont, devienne l'extrémité aval. Et donc, je peux utiliser une condition limite aval. Sauf que X et gamma ont changé de signe. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je trouve le résultat que je viens d'annoncer. Parce qu'évidemment, RA et HA, eux, c'est des choses qui se moquent pas mal de savoir si c'est l'amont ou l'aval. C'est ce que le monde extérieur applique au niveau d'un point. Ça, c'est évidemment intrinsèque. Alors, une manière beaucoup plus physique, qui vous convaincra davantage, je pense, de trouver la condition limite à monde, c'est de se dire, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire l'équilibre global, par exemple ici, en résultante de toute ma structure. Je sais que ma structure est en équilibre, j'écris le postulat en force. Donc j'écris que toutes les forces qui s'appliquent à ma structure, toutes, hein, ben, ont une somme nulle. Donc il va y avoir bien sûr l'action en A, l'action en B, les actions réparties et les actions concentrées entre A et B. Voilà, j'ai ça. Bon, maintenant, si subtilement, je m'intéresse simplement à ce groupement-là, qu'est-ce que j'ai en fait? Je prétends que ça, c'est x à plus, c'est-à-dire la valeur de grand X en un point qui est situé immédiatement à l'aval du point A, donc qui ne voit pas l'action en A, par construction, d'accord, ne voit que toutes les actions qui sont situées à l'aval du point A. D'accord? Eh bien, c'est bien ce que j'ai listé au-dessus de cette accolade. D'accord? Donc cette affaire-là, c'est bien x à plus. Donc je trouve qu'en fait, x à plus, la valeur de grand X, qui représente donc la résultante dans le torseur des efforts intérieurs au niveau du point A, eh ben c'est moins RA et non pas RA, comme ça aurait été le cas si on avait manipulé l'extrémité aval. D'accord? Donc il faut bien changer le signe, comme je l'ai annoncé avec mon petit tour de magie tout à l'heure. Okay. Mais ce que je vois, c'est qu'en fait, cette condition limite exprime fondamentalement l'équilibre de ma structure. Okay. Je pourrais faire exactement pareil pour le moment. D'accord. Le même raisonnement me dirait que gamma en A, ou immédiatement à l'aval du point A, c'est égal à moins HA. Okay. Donc on retient qu'on a deux conditions limites, aval et amont, et qu'il y a une subtilité de signe. Et que, à nouveau, cette subtilité de signe nécessite, pour qu'elle soit explicitée, qu'il y ait un sens de parcours qui soit donné. Ben, sinon, ça n'a pas de sens de parler d'aval et d'amont si on n'a pas de sens de parcours, bien sûr. Voilà. Une illustration de cette affaire-là, sur un exemple de structure, qui est tout à fait important dans la pratique. Dans la pratique, il y a des structures qu'on appelle des treillis, qui sont des systèmes de barres articulées. Alors en fait, dans la vraie vie, elles ne sont pas forcément articulées, elles peuvent même être boulonnées, mais dans un certain nombre d'applications pratiques, on considère que ben, la liaison en question peut être considérée comme une rotule, au sens que vous connaissez, au sens de l'articulation parfaite que vous avez manipulée, par exemple, dans le cadre des cours de sciences industrielles. Donc, je vais me placer dans un treillis où, à tout le moins, je vais m'intéresser à une barre rectiligne, c'est très important qu'elle le soit, hein, à une barre rectiligne qui est articulée par des articulations parfaites à ses extrémités. C'est quoi des articulations parfaites? Ben, vous le savez parfaitement, encore une fois, je vous renvoie à votre cours de sciences industrielles, d'accord? Ben, ce sont des dispositifs technologiques qui ne transmettent pas de moment, qui ne transmettent que des forces, d'accord? Voilà, donc j'ai des articulations parfaites aux extrémités A et B. Et alors, ce que j'ai représenté ici avec deux forces qui doivent être bleues sur votre écran, d'accord? Ces deux forces-là, eh bien, c'est en fait les résultantes des efforts extérieurs qui sont appliqués respectivement au niveau du point A et du point B. Mais ça veut dire que ça englobe ben, plusieurs choses. Ça englobe toutes les actions d'autres barres que j'ai représentées ici, en trait rouge pointillé, qui pourrait être liaisonné à la barre AB au niveau du point B ou au niveau du point A, et éventuellement des forces ponctuelles extérieures au système qui seraient appliquées en A ou en B. D'accord? Donc RA et RB, c'est du point de vue de la barre AB, d'accord, les résultantes des forces qui sont appliquées respectivement en B et en A, pour ce qui concerne le monde extérieur à la barre AB, qui inclut éventuellement des barres qui font partie du treillis. Ok, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vaseux dans cette définition. Alors ben, maintenant, je vais appliquer juste les petites règles de calcul que nous venons de considérer. Par exemple, qu'est-ce que ça voudrait dire faire la statique ben, de cet arc extrêmement simple qu'est mon segment AB? Je m'intéresse à un point P qui est situé dans la barre AB, je vais orienter de A vers B, et je regarde donc l'ensemble des actions qui sont exercées sur ma structure à l'aval du point P. Eh bien, s'il n'y a pas d'action entre les extrémités A et B, et ça c'est un point essentiel pour la suite, s'il n'y a pas d'action entre les extrémités A et B, la seule action qu'il y a à l'aval du point P, c'est la force RB. Et donc je peux tout de suite affirmer que quel que soit le point P de AB, X de P, c'est R de B. C'est-à-dire qu'à nouveau, comme dans mon petit exemple de tout à l'heure, en fait, X de P est une fonction constante. D'accord ? Et je peux aussi calculer gamma de P ben, par un produit vectoriel du type, enfin celui qui est indiqué sur la figure. Voilà. Ah, ben maintenant je vais écrire l'extrémité, je vais écrire que je connais des choses au niveau de l'extrémité amont. Qu'est-ce que je connais au niveau de l'extrémité amont ? Ben, je vais écrire ma condition aux limites amont telle que je viens d'apprendre à la calculer. À la condition aux limites amont, j'ai que x en a, donc en l'occurrence r de b, c'est égal à moins r a. Ah tiens, je vois que ma condition aux limites amont connecte R A et R B, en fait, ces deux forces doivent être opposées. Ben oui, c'était attendu. On a vu tout à l'heure que la condition limite amont exprimait, en fait, l'équilibre global. Ben, si l'ensemble des actions qui sont exercées à ma barre se résume à deux forces R B et R B, et R A, et que ma barre est en équilibre, ben forcément, je dois avoir R A plus R B égale à zéro. Et je peux continuer exactement dans la même logique en regardant maintenant la condition aux limites amont portant sur le moment. J'ai gamma A plus égale moins HA. Hein, c'est ce qu'on vient de voir. Oui, mais en fait, HA, c'est le moment qu'exerce le monde extérieur au niveau de A. Oui, mais il l'exerce par le biais d'une rotule. Donc, en fait, il exerce un moment nul. HA est égal à zéro. Ah bon? HA est égal à zéro, donc ça veut dire que gamma A plus est nul, mais gamma A plus, c'est AB vectoriel RB. Et donc, j'ai AB vectoriel RA égale AB vectoriel RB égale à 0. C'est-à-dire, en fait, que ben, ce que je suis en train de constater, et ça, c'est pareil, je pouvais le deviner, si je vous montre une barre comme ça, et que je vais avoir ici la force RB et ici la force RA, que mes deux forces sont bien opposées, mais pas collinaires à mon segment, ben, vous doutez bien que mon segment ne va pas être en équilibre. Il ne va pas être en équilibre du point de vue du postulat en moment. Eh bien, c'est bien ce que je trouve ici. C'est qu'en fait, mes forces RB et RA, elles peuvent pas du tout être comme sur mon dessin. Elles doivent être collinéaires à AB. Et donc, la conclusion, c'est ça. C'est que quand je suis dans un treillis, ou quand je considère une barre rectiligne articulée à ses extrémités sans effort entre les extrémités, d'accord? Eh bien, forcément, le seul effort intérieur qui peut être présent dans cette barre est un effort de type effort normal. D'accord? Puisque RA et RB sont collinéaires à AB et que X est égal à RB. D'accord? Ça veut dire que X doit être collinéaire à la barre et par conséquent, si X est collinaire à la barre, il ne peut pas y avoir d'effort tranchant. C'est que de l'effort normal. Ça, c'est un point absolument capital pour comprendre la manière dont on travaille ce type de structure. Okay? Et il n'y aura pas de moment non plus, ni de torsion, ni de flexion. Okay? Ce qui veut dire que quand on fait le bilan, les efforts intérieurs, ben, en un point donné d'une structure, c'est a priori 6 scalaires, ces deux vecteurs. Et ben, en fait, dans une structure de type treillis, système de barres rectilignes articulées, sans action entre les extrémités, et bien, dans chacune de ces barres, il n'y aura qu'un seul scalaire pour caractériser les efforts intérieurs, et ce sera pas un champ, ce sera une valeur uniforme, l'effort normal sera uniforme sur ça. Alors, si vous allez sur EducNet, à la rubrique, méthode des éléments finis, d'accord, vous allez voir un petit exercice sur un pauvre petit treillis à deux barres, d'accord. Alors je le prends pas comme ça, je le prends à la mode des éléments finis, mais vous pourrez le prendre aussi à la mode de la statique si ça vous chante. Voilà. Ok, j'enchaîne sur les conditions d'appui. Je suis en train d'avancer, je sais pas si je suis en retard ou pas. Non, oui, il faut que je me dépêche. Alors, les conditions sur les efforts extérieurs aux appuis, toujours dans la même logique, on vient de voir les conditions à l'aval et à l'amont, ça nous a amené à regarder les extrémités. En général, aux extrémités, la structure va être connectée au monde extérieur par des appareils d'appui. D'accord ? On va se donner un tout petit peu de terminologie pour décrire ces conditions. On va appeler... tout petit peu de terminologie, tout petit peu de formalisme, on va se donner donc un système d'axes, x, y, z, et on va appeler IR, d'accord, le sous-ensemble de x, y, z ou de 1, 2, 3, d'accord, qui me donne les indices pour lesquels, les indices i pour lesquels R indice i est connu. C'est-à-dire que ben, si i est dans IR, ça veut dire que je connais la valeur de RI. De la même manière, si J est dans IH, ça veut dire que je connais HJ. OK? Donc, une petite terminologie extrêmement simple. En gros, c'est l'homologue de mes STI du monde tridimensionnel. D'accord? Alors, on va regarder... on va prouver le mouvement en marchant. On va regarder d'abord un appui dit fixe articulé. Fixe, ça, c'est un mot cinématique. D'accord? Ça veut dire que j'empêche le déplacement de cette section. Donc, c'est pas une information de type effort. Plus exactement, ça veut dire que si c'est fixe, il faut exercer un effort pour que ça bouge pas. D'accord? Et cet effort, c'est une force. Et cette force, je la connais pas. Donc, ça veut dire que quand j'aurai affaire à un appareil de ce type, à un appui fixe, OK, je ne connaîtrai aucune des composantes de R. Il n'y a pas de RI donné. Et donc, ça veut dire que IR, c'est l'ensemble vide. En revanche, j'ai mis ici une rotule, d'accord, une articulation parfaite, la même que celle que vous avez rencontrée dans le cours de sciences industrielles. Et donc, ça veut dire que je ne transmets pas de moment. Et donc, ça veut dire que je connais les trois composantes du moment des efforts extérieurs appliqués par le monde extérieur au niveau de cette section de ma structure et que ce moment est nul. Donc, en fait, IH, c'est X, Y, Z. Voilà. De la même manière, je peux avoir affaire à un machin comme ça. Alors, on l'utilisera souvent dans des structures qu'on appellera la semaine prochaine des arcs-plans chargés dans leur plan, mais on peut en donner une définition tridimensionnelle. Ces petits rouleaux-là, ils signifient en fait que j'ai un contact plan-plan entre mon appui, entre ma section et le monde extérieur. D'accord ? Contact plan-plan, ça veut dire que j'ai les composantes dans le plan, c'est-à-dire le plan XZ, en l'occurrence, ici, pour moi, les composantes dans le plan sont connues, elles valent zéro. Je peux avoir un glissement, d'accord, libre dans le plan XZ de ma section par rapport à son support. OK. En revanche, j'interdis toujours le déplacement vertical. J'interdis le déplacement selon Y. Et si j'interdis le déplacement selon Y, je me donne une information cinématique et donc je n'ai pas l'information duale qui est la force qu'il faut appliquer selon la direction verticale pour empêcher le déplacement vertical. Ce qui veut dire en fait que IR se réduit à XZ, que Y n'appartient pas à IR. Et puis j'ai toujours mon articulation parfaite, donc IH c'est toujours la même chose. Puis enfin j'ai un autre exemple. Alors, bien sûr ça épuise pas l'inventaire de ce genre de trucs. Hein. Je peux avoir l'encastrement. L'encastrement, je le disais tout à l'heure, ça peut pas se translater, ça peut pas tourner, d'accord. Donc ça encore, ce sont des informations cinématiques. Et donc je ne connais pas les informations duales, la force qu'il faut exercer pour que ça se translate pas, le moment qu'il faut exercer pour que ça tourne pas, je les connais pas. Et donc c'est la situation où je n'ai aucune information sur R et H aux extrémités. J'en viens, et je finirai par ce truc-là, à l'hypothèse des petits déplacements. On parlera éventuellement de degrés d'hyperstaticité tout à l'heure en petite classe sur des exemples. Je vais vous parler de l'hypothèse des petits déplacements, rapidement. Quelle est l'idée? Et ça nous permettra de revenir sur la notion de petits déplacements qu'on a également pratiqué dans le calcul tridimensionnel. Regardez cette structure très simple, elle a l'air gentille comme ça. Hein, on a une configuration initiale de ma structure qui est un segment rectiligne, et puis il y a deux forces aux extrémités. Alors quelqu'un dit, il faut faire la statique. Ça, c'est pas bien difficile. Hein. En particulier, si je m'intéresse au moment, je me dis que la force horizontale ici, elle va pas contribuer. Elle va pas pouvoir avoir un moment, d'accord, par rapport à un point P d'un segment, puisque le segment en l'occurrence est collinaire à la force. Donc, j'oublie ma composante. Horizontale de l'action d'extrémité. Manque de chance. Manque de chance, il y a une force verticale. Et la force verticale va évidemment induire une flexion, a priori, de cet arc. Et à partir du moment où il y a une flexion de cet arc, il y a automatiquement un bras de levier, maintenant, qui est disponible pour la composante horizontale de la force. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça veut dire que je ne peux pas faire, a priori, la statique de mon arc sur sa configuration initiale parce que j'oublie certaines contributions qui vont apparaître une fois que mon arc sera déformé. Et ça, c'est évidemment extrêmement fâcheux parce que même si j'ai un comportement linéaire, cette affaire-là, ce changement de géométrie induit ce qu'on appelle une non-linéarité géométrique et ça rend le problème autrement compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va admettre que cet effet, on va pas dire qu'il est nul, on va dire qu'on va admettre que cet effet est négligeable. Donc on va procéder de la manière suivante, on va affirmer ou on va faire l'hypothèse que l'on peut effectuer la statique sur la configuration initiale. Alors après, en bon physicien, Une fois qu'on saura comment il faut faire pour connecter tout ça à la transformation géométrique, on calculera la transformation géométrique. Et tout calcul fait, on regardera si notre force horizontale a bien un moment négligeable compte tenu du bras de levier qui est apparu au cours de la transformation géométrique par rapport, bien sûr, à d'autres contributions, en l'occurrence, le moment qui est dû à la force verticale. Vous avez compris ce que je suis en train de raconter ? Donc évidemment, je ne néglige pas la transformation géométrique, c'est pas ça que je fais. Je dis que je peux calculer les efforts intérieurs sur la configuration initiale. Alors, d'une façon un petit peu formelle, ça veut dire que, normalement, l'équilibre, ça se juge sur une configuration d'équilibre, justement, c'est-à-dire celle qui s'instaure après application du chargement. Donc, ça devrait être normalement effectué sur des champs X et gamma qui sont argumentés par l'abscisse curviligne petit s de la configuration déformée. OK ? Bon, ce que je viens de raconter revient à dire qu'on peut faire le calcul sur la configuration initiale et utiliser à la place de petit s l'abscisse curviligne sur la configuration initiale. Voilà. Je crois que j'en ai fini. On verra donc sur des exemples l'objet du dernier transparent. Ce sera plus explicite. Merci pour votre attention. Et donc, il vous reste à rejoindre donc les petites classes des collègues d'ici 10 minutes.